Bonjour professeur Penn, vous êtes PUPH dans le service de médecine intensive et réanimation à l'hôpital Cochin et nous sommes ravis de vous recevoir pour ce podcast consacré à l'anémie. Quelles sont les principales causes d'anémie en réanimation et comment les prévenir ?
Bonjour et tout d'abord merci pour cette invitation. Donc l'anémie est une condition fréquente en réanimation, notamment lorsque le séjour se prolonge et est très clairement associée à la gravité et à la mortalité. Les mécanismes de l'anémie en réanimation sont assez variés, mais au-delà d'une éventuelle pathologie sous-jacente, les mécanismes principaux sont la dilution, l'inflammation par divers mécanismes, à la fois une réduction de la durée de vie des globules rouges, une répression de la synthèse d'érythropoïétine, et également une dysérythropoïèse par résistance des précurseurs érythroblastiques à l'érythropoïétine. Et enfin, une cause importante, car accessible à une éventuelle prévention, c'est la spoliation sanguine par hémorragie aiguë, par des pertes sanguines accidentelles lors de procédures par exemple, mais également les prélèvements sanguins, qu'on a pu également appeler le vampirisme médical. Et ainsi, une étude observationnelle importante réalisée au début des années 2000 avait démontré que les patients de réanimation étaient prélevés en moyenne de 40 à 80 ml de sang par jour. Pour aborder cette problématique, la SFAR et la SRLF, en collaboration avec la Société française de transfusion sanguine et la Société française de vigilance et thérapeutique transfusionnelle, ont récemment produit des recommandations formalisées d'experts sur la gestion et la prévention de l'anémie en réanimation, à l'exclusion notable de la pédiatrie, ainsi que de situations particulières, des hémorragies aiguës ou d'hémoglobinopathie, par exemple. Donc, ces recommandations formalisées d'experts ont été organisées par les commissions des référentiels des deux sociétés, Gérald Schank pour la SFAR et Antoine Kimoun pour la SRLF, et les experts ont été coordonnés par Sigismond Lazocki pour la SFAR et par moi-même pour la SRLF. Et ces recommandations formalisées d'experts ont permis d'aborder trois points principaux qui sont la prévention de l'anémie en réanimation, les stratégies transfusionnelles et les traitements hors transfusion de l'anémie. Ces recommandations formalisées d'experts ont suivi un schéma classique et seules les recommandations avec un accord fort, c'est-à-dire avec l'approbation de 70% des experts après un ou deux tours de cotation, ont finalement été retenus. Et finalement, cette RFE a abouti à 10 recommandations avec un accord fort, dont 3 de niveau de preuve élevé, de grade 1, 4 de niveau de preuve faible, de grade 2, et 3 avis d'experts. Et la première partie de cette recommandation formalisée d'experts a donc porté sur la prévention de l'anémie en réanimation, avec d'abord des moyens non pharmacologiques et une mesure principale et probablement très importante à mettre en œuvre au quotidien, est d'adopter une stratégie de réduction des examens complémentaires biologiques. On peut également envisager de diminuer le volume de prélèvement par des solutions techniques qui sont par exemple l'utilisation de tubes pédiatriques ou encore des systèmes de réinjection de la purge. La deuxième partie sur la prévention concerne les moyens pharmacologiques. En l'absence de données solides, il n'a pas été possible de fournir de recommandations sur la substitution par les vitamines B9 et B12. Concernant la supplémentation en fer, les travaux et les méta-analyses issues de ces travaux montrent que celle-ci ne permet pas de diminuer le recours aux transfusions et n'est donc pas recommandée, en dehors néanmoins de la coprescription d'agents stimulant l'érythropoïèse, comme on va le voir peut-être un petit peu plus tard.
Quelle stratégie transfusionnelle adopter et pour quelle population ?
Alors, les transfusions de globules rouges demeurent actuellement la principale option thérapeutique pour le traitement de l'anémie, notamment en réanimation. Et cette thématique a effectivement représenté le gros du travail de la RFE. En réanimation, les bénéfices escomptés de la transfusion de globules rouges sont d'améliorer le transport en oxygène et donc l'oxygénation tissulaire, prévenir la survenue d'événements ischémiques, traiter d'éventuels événements ischémiques, fournir une réserve d'hémoglobine en cas d'événements hémorragiques ultérieurs, et puis quelque chose qui n'a pas été bien évalué jusqu'à maintenant dans la littérature, c'est d'améliorer la tolérance à des efforts de rééducation. Néanmoins, ces transfusions de globules rouges sont également grevées d'effets indésirables. D'une part, ce sont des ressources limitées et les transfusions sont associées à des complications non immunes, la principale étant l'OAP de surcharge, et des complications immunes, les réactions transfusionnelles, mais aussi potentiellement une immunomodulation susceptible de favoriser le développement d'infections nosocomiales. Donc, pour aborder le problème des transfusions, nous avons utilisé des questions de type PICO, en choisissant comme population les patients de soins critiques, comme intervention une stratégie transfusionnelle restrictive, avec un seuil transfusionnel entre 7 et 8 grammes par décilitre selon les études et les situations cliniques. Le comparateur étant une stratégie libérale, avec un seuil transfusionnel plus élevé entre 9 et 10 grammes par décilitre. Et comme critère d'évaluation, le O pour outcome, c'était d'une part le volume de transfusion de globules rouges, mais également la morbimortalité liée à l'anémie ou à la transfusion. Tout d'abord, nous avons pu fournir des recommandations fortes sur la gestion pratique des transfusions. Une de ces premières recommandations est qu'il n'y a pas d'intérêt à choisir les culots globulaires en fonction de la durée de stockage. En effet, deux grandes études randomisées ont démontré l'absence d'avantage à l'utilisation de culots globulaires frais, stockés pendant moins de 2 semaines, par rapport à des culots globulaires stockés pendant une durée plus prolongée de plus de 3 semaines. Ensuite, l'esprit global de la prise en charge de l'anémie est l'épargne transfusionnelle, raison pour laquelle nous avons recommandé une politique de transfusion unitaire, culot par culot, avec réévaluation du rendement transfusionnel, ce qui est pratiqué dans toutes les études interventionnelles sur le sujet. Et en ce qui concerne les stratégies transfusionnelles proprement dites, nous avons individualisé différents sous-groupes de patients, des patients de soins critiques en général, qui incluent les patients en choc septique, les situations post-opératoires de chirurgie cardiaque, le patient cérébro-lésé et le patient avec un syndrome coronaire aigu. En ce qui concerne les patients de soins critiques en général, avec anémie euvolémique, je rappelle que les patients avec hémorragie aiguë étaient exclus du champ de cette RFE, l'étude pivot dans le domaine est clairement celle de Paul Hébert, publiée en 1999 dans le New England Journal of Medicine, dans laquelle plus de 800 patients de réanimation avaient été randomisés pour recevoir une stratégie transfusionnelle restrictive, avec un seuil transfusionnel d'hémoglobine à 7 grammes par décilitre, versus une stratégie libérale avec un seuil transfusionnel d'hémoglobine à 10 grammes par décilitre. Cette étude avait alors montré que la stratégie restrictive permettait de diminuer le volume des transfusions de globules rouges et était bien tolérée sans augmentation de la mortalité. Néanmoins, elle n'est pas exempte de limites. Il s'agit d'une étude réalisée dans les années 90 avec beaucoup de critères d'exclusion et le sang utilisé dans cette étude était alors non déleucocyté. Plus près de nous, une autre grande étude randomisée multicentrique, l'étude TRIS, qui est une étude scandinave publiée en 2014 dans le New England Journal of Medicine, avait évalué des stratégies transfusionnelles restrictives ou libérales chez près de 1000 patients pris en charge pour un choc septique. La stratégie transfusionnelle était allouée pendant toute la durée du séjour en réanimation et qu'à 28 jours, et là encore, avait démontré d'une part que la stratégie restrictive permettait de diminuer le volume de transfusion et d'autre part sans altérer le pronostic et sans augmenter donc la mortalité. Plusieurs méta-analyses ayant pris en compte ces études et d'autres ont confirmé la sécurité d'une stratégie transfusionnelle restrictive en termes de survie et voire peut-être même un bénéfice. Nous avons donc fourni une recommandation forte de suivre une stratégie transfusionnelle restrictive avec un seuil transfusionnel d'hémoglobine à 7 grammes par décilitre chez les patients de réanimation, dont les patients septiques. En ce qui concerne les patients en situation post-opératoire de chirurgie cardiaque, 3 larges essais randomisés sont concordants pour recommander une stratégie transfusionnelle restrictive avec un seuil transfusionnel d'hémoglobine entre 7,5 et 8 grammes par décilitre. En ce qui concerne les patients cérébro-lésés, les études sont très hétérogènes, mais sont plutôt en défaveur d'une stratégie libérale pour maintenir un taux d'hémoglobine supérieur à 10 grammes en termes de mortalité, en termes de durée de séjour en réanimation ou encore de complications neurologiques. Pour autant, l'indication de transfusion de globules rouges ne doit pas prendre en compte simplement le taux d'hémoglobine, mais aussi la tolérance de l'anémie notamment en cas d'antécédents cardiovasculaires. Nous n'avons pas pu fournir de recommandations sur le seuil transfusionnel chez les patients de réanimation porteurs de pathologies cardiovasculaires sous-jacentes. L'analyse de la littérature dans le domaine est rendue difficile par l'hétérogénéité des patients porteurs de cardiopathie ischémique, de cardiopathie non ischémique, mais aussi simplement d'hypertension artérielle. Nous avons produit une méta-analyse originale portant spécifiquement sur ce sous-groupe de patients et montré qu'une stratégie restrictive n'était pas associée avec une augmentation de la mortalité dans ce sous-groupe de patients. Néanmoins, une proposition de recommandation prônant une stratégie transfusionnelle restrictive n'a pas obtenu l'approbation d'au moins 70% des experts et n'a donc pas été retenue dans le document final. Enfin, nous avons abordé la situation particulière du syndrome coronarien aigu. Et je pense que bon nombre d'entre nous auraient naturellement tendance à prôner une stratégie libérale pour viser un taux d'hémoglobine supérieur à 10 g par décilitre dans ce contexte. Cependant, la pertinence de ce seuil transfusionnel élevé n'est pas évidente dans la littérature. Les études observationnelles retrouvent plutôt un effet délétère de la transfusion pour maintenir un taux d'hémoglobine supérieur à 10 g par décilitre en termes de mortalité ou de récidive ischémique. Deux études randomisées de petite taille ont investigué cette question, mais retrouvent des résultats contradictoires. Enfin, il est possible qu'une éventuelle vascularisation puisse moduler cette indication, mais nous n'avons actuellement pas les éléments pour répondre à cette question. Donc, dans l'état actuel des connaissances, et dans l'attente d'études qui sont en cours dans le domaine, nous avons fourni une recommandation de niveau de preuve faible contre une stratégie transfusionnelle libérale ciblant un taux d'hémoglobine supérieur à 10 g par décilitre au cours du syndrome coronarien aigu, revascularisé ou non.
Pouvez-vous nous dire quels sont les moyens non transfusionnels à mettre en œuvre pour traiter l'anémie ?
Alors, plusieurs études randomisées ont investigué l'intérêt des agents stimulant l'érythropoïèse dans la prise en charge des patients de réanimation. Et ces études ont ensuite alimenté plusieurs méta-analyses. Ce qu'on peut retenir de ces études et de ces méta-analyses, c'est que les agents stimulant l'érythropoïèse permettent une diminution des besoins érythrocytaires en réanimation et sont associés à une diminution de la mortalité, notamment dans le sous-groupe des patients traumatisés. Et ceci sans augmentation des effets indésirables, notamment sans augmentation du risque de complications thromboemboliques veineuses, en sachant que ces effets indésirables n'ont pas été systématiquement recherchés dans les études. Compte tenu de ces résultats, et je crois que c'est une nouveauté de cette RFE, nous avons proposé une recommandation d'utilisation des agents stimulant l'érythropoïèse chez les patients anémiques et ou traumatisés avec une durée de séjour prolongée en réanimation. Et en pratique, nous suggérons d'initier le traitement chez les patients avec une durée de séjour supérieure à 5 jours, en l'absence de contre-indications potentielles, telles que des antécédents de cardiopathie ischémique ou des antécédents thromboemboliques veineux. Le schéma proposé, car étant celui adopté dans la plupart des études, est l'époétine alpha à la dose hebdomadaire de 40 000 unités par semaine, éventuellement associée à une supplémentation martiale, à poursuivre jusqu'à ce que le taux d'hémoglobine se stabilise entre 10 et 12 g par décilitre.
Eh bien, merci professeur Penn de nous avoir fait le plaisir d'enregistrer avec nous ce podcast qui était consacré à l'anémie.